La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, je reçois Sandra Travers de Fautrier pour le numéro 9 de l'année 2025 de la revue Droit et Littérature, publiée par les éditions LGDJ, revue qui est placée sous la direction de Nicolas Dissot, son rédacteur en chef, et de Yves-Édouard Lebos, son secrétaire général. Et cette revue a pour thème central cette année, thème qu'a dirigé Sandra Travers de Fautrier, Là où se déploie le monde, droit et littérature, forme et sens, à même l'histoire. Sandra est également autrice de trois ouvrages ces dernières années, « Afin que du réel advienne, quand droit et littérature sont en dialogue » en 2021, « Gide, l'assignation à être » chez Michalon en 2005, et enfin « Droit et littérature, essai sur le nom d'auteur » chez PUF en 2001. Bonjour Sandra.
Bonjour Denis.
Alors, vous avez réussi, Sandra, le tour de force de réunir au cours d'une semaine complète où environ une vingtaine d'auteurs, à peu près, se sont réunis pour labourer le champ droit et littérature dans le lieu mythique de Cerisy-la-Salle, auquel cet ouvrage fait référence. Cerisy est un centre culturel international qui assure, dans un château normand du XVIIe siècle, depuis 1952, des colloques dans un climat de convivialité, dans des domaines très très divers. Ce centre est piloté par Edith Eugron, qui vous a initié pour vous permettre d'organiser ce séminaire. Et comme j'y ai participé, je peux en témoigner, le groupe vit ensemble, ainsi d'ailleurs que Christine Baron, partage des repas, des veillées, des promenades dans le parc, et dans certaines pièces où on admire le fauteuil où André Gide a lisé ses dernières publications. Sans oublier les nombreuses photos encadrées qui parsèment les pièces et racontent les mémorables décades de Cerisy depuis les années 50. Voilà pour le cadre. Maintenant, Sandra, nous allons aborder le fond de ce programme que vous avez conçu. Vous évoquez dans votre introduction votre volonté de faire éclater les frontières entre les genres, à faire dialoguer ces deux mondes, ces deux langues, celle du normatif et celle de l'imaginaire. Et vous parlez à la fois d'interdiscipliné, mais aussi d'indisciplinarité. Comment vous expliquez ce positionnement, ce concept ?
Alors, tout d'abord, je pensais que Cerisy-la-Salle était vraiment le lieu où ce type de colloque devait se tenir, puisqu'à Cerisy, effectivement, vous avez des colloques de littérature, de philosophie, de psychanalyse, de science, d'environnement, enfin bon, bref. Ouais. Et c'est là que des personnes d'horizons très divers peuvent se rencontrer, ouais. peuvent s'écouter, s'entendre, mais également dialoguer. Et la dimension dialogue était extrêmement importante pour moi, dans la mesure où droit et littérature, pour moi, c'est un dialogue. Ce n'est pas une confrontation, ouais. c'est véritablement un dialogue. Ouais.
La conception générale du séminaire.
L'indisciplinarité, c'était une manière, c'est une expression que j'ai empruntée à Laurent Lotti. C'est une manière de me situer pas dans l'interdisciplinarité, pas non plus dans le transdisciplinaire. C'est une manière de dire, tentons de respecter toutes les disciplines, mais d'abattre les murs qui font que chacun est tout le temps dans la coïncidence avec l'univers dans lequel il a l'habitude de travailler. Mmh. Et donc le fait, je crois, de s'ouvrir, de bien vouloir entendre les résonances que certaines choses provoquent dans la matière de l'autre, ou au contraire, comment la matière de l'autre résonne à l'intérieur de notre matière, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement.
Donc il y avait à la fois des juristes.
Alors voilà, il y avait des juristes.
Et des littéraires.
Et des littéraires. Et alors j'ai essayé de constituer un équilibre de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a un tout petit peu plus de littéraires que de juristes. Je tenais également à un brassage de générations. C'est la raison pour laquelle je me suis entourée aussi de jeunes co-directeurs, si j'ose dire, parce qu'il y a aussi différentes manières d'aborder ce dialogue entre droit et littérature. Et je dirais que ces différentes manières tiennent à la fois aux personnes qui naturellement approchent ce domaine, mais tiennent également aux générations. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on prend de l'autonomie par rapport à ce qui se faisait, de nouveaux thèmes apparaissent, de nouvelles perspectives, de nouvelles interrogations, ce qui fait que c'est un champ de recherche absolument extrêmement vaste, extrêmement riche, qui n'est pas fermé, qui ne doit pas être fermé d'ailleurs, et qui laisse place à une multiplicité de démarches.
Ce que vous dites d'ailleurs, c'est que dans l'histoire de la littérature et du droit, les deux disciplines n'étaient pas du tout cloisonnées.
Alors voilà. Alors c'est ce que j'ai voulu un petit peu dans ma communication démonter, hein, parce que très souvent on croit qu'on doit droit et littérature aux Américains parce qu'au début du XXe siècle,
Balzac les magistrats... fait du droit et littérature en permanence, entre autres.
Et j'ai voulu remonter vraiment très très loin, et là où on trouve, bien sûr, dans l'Antiquité, on a des personnages qui sont à la fois des juristes, des écrivains, bon, bref. Mais prenons les choses un peu plus sur un plan disciplinaire, on va dire. À l'époque médiévale, on a déjà un travail en commun, une réflexion en vis-à-vis, à partir de la rhétorique, qui appartient aussi bien aux littéraires qu'aux juristes. Et finalement, la manière dont la langue française s'est déployée, alors avec un objectif naturellement monarchique, qui cherchait à bien imposer son pouvoir, cette langue française s'est développée à la fois à travers le droit et alors ce qu'on appelait autrefois la littérature, et qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous définissons comme la littérature. Mais grosso modo, c'est comment employer la langue, soit pour faire de la fiction, et encore au Moyen-Âge, la fiction n'était pas considérée comme le secteur noble. Donc ça ne relevait pas de la littérature, c'était en revanche ce qu'on appellera plus tard les belles lettres, des gens qui raisonnent, réfléchissent, mais en faisant attention à la langue et pas simplement en l'utilisant comme un moyen.
Voilà. Alors, dans ce numéro, il y a quatre grandes parties. Possibilité d'un dialogue, les personnages de la pensée, formule que vous empruntez à Valère Novarina, les formes à l'œuvre et la créance de sens, formule empruntée, je crois, à Alain Supiot.
Oui.
Il faudrait peut-être revenir sur le sens de cette formule. Oui. Alors, simplement, en ce qui me concerne, j'ai lu quelques articles, et notamment j'ai été frappé par l'article de Jean-Paul Honoré, qu'on connaissait déjà dans sa visite du palais de justice de Paris, un lieu de justice, un poète au tribunal. Donc je trouve que ce regard décadré, comme il le dit, un décadrage sur le travail de la justice, qui fait ressortir une vision de la justice qui n'est pas du tout celle du juriste, mais qui la rejoint quand même à travers le travail des mots, des silences, des paroles, des déambulations aussi qu'il réalise. Donc il y a un travail sur l'énonciation plus que sur l'énoncé, qui est une manière de regarder différemment l'objet justice, qui est une première manière de voir les choses. Et puis l'article d'Odile Barral, magistrate et écrivain, qui dit cette formule: les gens parlent parce qu'ils sont écoutés. C'est une formule toute simple, mais qui dit beaucoup du récit féministe aujourd'hui. Hein, elles parlent parce qu'elles savent écouter. Donc cette résonance entre parler et être écouté me semble très forte. Et puis cette formule qu'elle utilise aussi, je ne suis pas la source, je suis le confluent, qui est aussi une bonne manière de définir votre projet, Sandra. Alors peut-être cette première partie, globalement, la vision d'ensemble.
Alors, je trouvais que c'était important dans la première partie de faire parler des écrivains. C'est-à-dire leur donner la parole, pas simplement être spécialiste du droit, être spécialiste de la littérature, et puis finalement parler de cet objet. Il fallait encore que ceux qui sont à l'origine de l'objet finalement prennent la parole, d'où mon invitation à quatre auteurs qui chacun a abordé là aussi de façon très différente. Jean-Paul Honoré, effectivement, n'est pas juriste, mais c'est un poète, absolument. Et donc, il a une manière d'aborder le fait, la réalité, le réel. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un rapport au réel, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long des exemples. Il a une manière d'aborder le réel qui est, effectivement, celle d'un poète, une attention à tout ce qui peut faire signe, pas nécessairement parce que le signe dit quelque chose, mais parce que le signe renvoie à quelque chose d'à côté, et qu'il saisit cette chose à côté pour lui faire dire quelque chose. Et je dirais qu'il a une démarche tout à fait impressionniste. Ce sont des petites touches de réel qui, montés d'une manière très particulière, finissent par nous donner le sentiment d'avoir plongé dans le tribunal avec lui et d'avoir passé un certain nombre de jours pour voir ce qui se passait. Donc c'est tout à fait...
Réenchantement de la vie judiciaire.
Oui, absolument. Absolument. Mais c'est important parce qu'on a eu quand même quelques années pendant lesquelles les gens qui assistaient, je dirais que ce soit des sociologues ou même certains écrivains, étaient dans un discours extrêmement critique. Là, nous ne sommes pas dans discours hagiographique, je dirais, mais on est dans un discours qui essaie d'être, je dirais pas neutre, mais qui prend à bras le corps le réel sans nécessairement avoir un présupposé.
Alors c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement il y a beaucoup de discours romanesques, critiques. Par exemple, c'est les comparutions immédiates qui sont des charges énormes, notamment pour dénoncer cette justice de l'urgence, etc. Oui. Lui, pas du tout. Il assiste à des comparutions immédiates, il assiste à de nombreux procès, mais il a ce recul du poète. Il voit autre chose. Et c'est cette autre scène qui nous donne à voir.
Voilà, absolument. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'être ni un complice collaborateur du système, ni un critique. C'est véritablement, comme je dis... prendre à bras le corps, accueillir ce réel, ce qui est, et à partir de là, essayer d'en dire quelque chose, mais comme un témoin dit quelque chose. C'est vraiment le témoignage au sens quasi religieux. C'est pas le témoignage au sens juridique, mais le témoignage au sens religieux. J'étais là, j'ai vu et je peux transmettre. Voilà, je crois que c'est
de transmission.
Transmission. C'est quelque chose qui me paraît important. Et cette dimension témoignage, elle existe dans tous les auteurs qui ont été rassemblés dans cette première partie. Odile Barral dont vous parlez, elle est magistrate aussi, et on pourrait dire que c'est du témoignage tiré de son expérience professionnelle. Oui, c'est certain, mais on n'est pas du tout, quand même, dans une expérience professionnelle. On est au-delà, on est réellement dans de l'écriture littéraire, dans du montage littéraire, et donc pour moi, c'est aussi du témoignage, pas au sens professionnel du terme, mais au sens qu'on l'a employé pour Jean-Paul Honoré.
Voilà, donc il y a d'autres articles.
Oui,
il y a un article remarquable d'ailleurs de Yves-Edouard Le Beau sur la haine du droit, qui convoque énormément d'auteurs comme Céline, comme d'autres sur, sur ce registre-là. Il y a aussi l'article de Gisèle Bienne sur la confusion des savoirs et la nuit de l'écriture et la clarification. Donc quatre articles. Il n'y a pas seulement des auteurs, il y a aussi un juriste, un juriste au moins, qui contribue.
C'est-à-dire que lui en tant que juriste, il devait faire une espèce de panorama sur tous les auteurs qui détestent. Teste le droit.
Oui.
Parce que c'est important.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, absolument. Et c'est vrai qu'il y a quand même une très très grande généalogie discours littéraires extrêmement négatifs sur la justice.
Alors, Philippe Muret,
c'est pas toujours à tort, d'ailleurs. Je dirais, par exemple, les souvenirs de la cour d'assises de Gide sont très intéressants parce qu'ils disent des choses qui avait besoin d'être dite. C'est tout à fait évident. Mais on est passé à autre chose. Et je dirais, dans les cahiers de la justice, par exemple, j'avais donné un compte-rendu de l'ouvrage de Yannick Hennel, où là, c'était absolument flagrant de voir à quel point, au-delà même de l'absence de critique, c'était une reconnaissance de la... Je dirais pas la bienveillance, c'est pas... Mais comment, aujourd'hui, la justice... entend tout le monde. Et là, le fait d'écouter est important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la victime, ce n'est pas simplement la société qui a été bafouée, ce n'est pas seulement etc. C'est également, entre guillemets, le monstre qui est écouté, qui a le droit d'être considéré comme un humain.
Un très bel hommage à la justice. Donc, de la part de quelqu'un qui n'est pas du tout juriste, qui ne connaissait même pas la scène judiciaire, qui la découvre et qui montre cela.
Voilà.
Cette chose qui est le procès équitable, on entend toutes les voix, même les plus désagréables.
C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et donc tous ces auteurs aujourd'hui ne partent pas avec un a priori négatif. S'il y a quelque chose à dénoncer, ils le font. Mais s'il y a quelque chose aussi de, je dirais, beau, entre guillemets, à dire, ils le font.
Ouais. Il y a vraiment deux tendances, deux écoles. L'école de ceux qui ont un scénario implicite de dénonciation de la justice.
Oui.
Je pense notamment à tous les récits de cette justice de l'urgence qu'on voit fleurir un peu partout. En droit et en littérature, d'ailleurs, dans les deux registres. Puis ces récits-là, Yannick Hennel, dans Notre solitude, ou Jean-Paul Honoré, ou d'autres, qui montrent une autre chose. Et notamment, dans cette autre scène, il montre effectivement une réalité que les juristes n'ont peut-être pas habitué à voir tellement ils la pratiquent, qui est l'équité du procès et de la distribution de la parole.
Absolument.
Donc ça me semble une grande force de votre ouvrage.
Dans les cahiers de la justice, sur le numéro, le dossier sur les langues, c'est aussi ce travail implicite et impensée d'accueil d'une langue qui n'est pas forcément la leur.
Oui.
Parce
oui,
que on peut être oui, devant des Français, hein, voilà, qui parlent français, mais leur, je dirais, leur métier, leur génération, leur milieu social, tout ça fait que ils ne parlent pas tout à fait le même français et que les mots n'ont pas tout à fait le même
alors,
poids.
Voilà. On y vient. Oui. On y vient. On y vient, c'est votre deuxième grande partie,
oui,
les personnages de la pensée.
Oui, absolument.
Alors simplement, j'ai noté, cette fois il y a plusieurs textes,
oui,
le texte de Marie-Hélène Boblet, La langue du troisième millénaire. Alors ça rejoint l'idée de la langue,
oui,
comme vous le disiez, parce qu'effectivement, elle étudie les étrangers devant le juge de la détention, oui, le procès de France Télécom,
oui,
et elle étudie notamment le grand texte de Sandra Lucbert.
Lucbert, oui, oui.
Le titre, c'est de
Personne ne sort les fusils.
Voilà. Voilà. Donc voilà, cet écart des langages, comment vous l'abordez dans cette partie?
Alors,
les auteurs l'abordent plutôt.
Tout à fait. Alors pourquoi une partie les personnages de la pensée? Parce qu'effectivement, c'est une des façons de faire du droit et littérature. C'est-à-dire, en fait, prendre comme clé d'entrée un personnage. Et ce personnage, il peut être déterminé soit par, je dirais, son statut social, c'est le cas du bâtard, par exemple, qui est le bâtard qui est à la fois, c'est un statut social, c'est un statut juridique, et c'est une réalité de la vie de tous les jours. Ouais. Bon, alors plus aujourd'hui, hein, naturellement, mais ça l'a été pendant très longtemps. Or, ça a des conséquences, bien. Un personnage, ça peut être aussi une femme, donc ça, le fait d'être une femme ou un homme, ou le fait d'être un étranger.
C'est avec le personnage
ou,
central.
Ou quelqu'un de national. Enfin, voilà. Ouais. Le personnage, c'est une clé d'entrée pour faire du droit et la littérature. C'est pas du tout la seule façon, mais c'est une manière de le faire. Donc, voilà comment le titre.
Alors, le bâtard, c'est Marie-Anne-Elisabeth Tinville qui l'évoque.
Voilà.
Les personnages, notamment le droit, construit aussi.
Construit les personnages.
Notamment
tout
la
fait.
Montagne, les fleuves. Oui. Judith Sarfati-Lanterre évoque cette création, cette imagination de
la littérature. Ça, c'est le côté véritablement performatif du droit.
Voilà.
Alors, qui rejoint celui aussi de la littérature. C'est-à-dire qu'on est là face à une discipline qui se saisit du réel et qui, plutôt que d'essayer de donner la parole au réel, puisque le réel ne parle pas tout seul, c'est lui qui va construire cette parole du réel et qui finit par déterminer, façonner le réel. C'est la raison pour laquelle j'évoque une forme formante. Le droit est une forme formante, en quelque sorte. Mais la littérature aussi, dans l'autre sens, fait le même travail. Quand on construit des Rastignac, quand on construit des Madame Bovary, etc., à tel point que tout le monde sait ce que c'est et qu'aujourd'hui, ça peut être un mot tout simple qui va désigner quelqu'un, qui va désigner un caractère, on voit très très bien que droit comme littérature...
Justement, vous ne trouvez pas que, précisément, quand les juristes, les juges créent des personnages dans la fiction juridique, comme les fleuves, ont une personnalité juridique aujourd'hui, dans certaines jurisprudences, est-ce qu'ils ne retournent pas aux sources imaginaires du droit pour construire des fictions juridiques qui vont être opérationnelles dans le contentieux le plus réel?
Ça fait partie de ces choses très intéressantes, effectivement. Voilà. Et quand je suis revenue à Vico et au travail qu'il fait à partir des mythes et de la poésie qui serait à l'origine du droit, oui, c'est absolument juste. Dans ce qui paraît novateur, on renoue avec des choses tout à fait anciennes. Et c'est vrai que, par exemple, pour parler des fleuves, des montagnes, je suis allée il y a peu de temps en Nouvelle-Zélande et dans l'île du Sud, et tout à coup, quand on se retrouve dans cette espèce de... Il n'y a pas d'humain, il n'y a rien, vous n'avez que des fleuves absolument superbes, des montagnes magnifiques et autres. Et j'avais dans ma tête de juriste, toute cette jurisprudence récente sur la reconnaissance de ces éléments. Et là, on se dit, mais oui, bien sûr, parce que...
Et c'est une évidence.
Oui, c'est absolument. Et qu'on voit que certains autochtones ont... on passe sur des routes où il y a tout à coup une trace de ces autochtones qui élevaient des choses, des bustes, en l'honneur du fleuve, en l'honneur de la montagne. On se dit, on a fait du chemin et on y revient. Voilà.
Le personnage est une création littéraire, la personne est une création du droit, mais à partir de quel moment le personnage s'élève, c'est le type universel qui transcende le personnage vers une figure un peu emblématique. Le Don Quichotte, c'est aussi le Don Quichotisme. Bovary, c'est aussi le bovarisme. Il y a une vision vers l'universel dans la littérature qui se projette vers cette direction.
Alors, je pense que, comme toujours, la littérature s'occupe du singulier.
Oui, voilà. Alors, voilà. Il faut le dire. Ça.
C'est souvent d'ailleurs ce qui motivait au départ hein, l'étude des textes littéraires par les juristes. C'est ce que disait le doyen Wigmore. Hein. Mm-hmm. Un magistrat n'aura jamais le temps d'avoir une expérience de la vie absolument énorme. En revanche, plus il lit de romans, plus il va avoir accès à du réel à travers des cas singuliers.
C'est ça,
bon,
c'est ça.
Mais ces cas singuliers, effectivement, s'ils sont intéressants, c'est parce que d'une certaine façon, ils disent quelque chose de commun.
C'est ça. C'est ça.
Et donc, à travers ce
Le commun à travers le singulier.
Voilà, à travers ce commun partagé, on fait monter en puissance le général, et quand ce général rencontre le droit, quand le droit pose une qualification, il est évident qu'il s'affranchit du singulier. Hein, la preuve, c'est qu'il faut bien après personnaliser les peines, etc. etc. Donc, il s'affranchit du singulier, et en faisant de cette qualification quelque chose de commun, il aboutit aussi au général. Et le fait qu'il y ait une concordance entre les deux, parce qu'effectivement, il y a des Bovary, il y a des Rastignac, il y a... Voilà. On voit bien que le mélange...
Et en même temps quand vous dites cet homme-là, je le qualifie comme étant un voleur, vous lui projetez une image stigmatisante.
Oui, bien sûr.
Le droit n'est pas un réenchantement permanent.
Ah non,
il peut aussi stigmatiser, coller une étiquette infamante à un individu.
C'est parce que le droit est un Janus, c'est-à-dire à la fois, c'est ce que j'appelle le droit peut être
un universel négatif.
Lève-toi et marche. C'est-à-dire que le droit, quand il décide, il est émancipateur. C'est-à-dire quand il dit à quelqu'un, vous êtes
un être humain. Être émancipateur aussi.
Voilà, vous êtes un être humain, et même si la personne intérieurement se sent vraiment humiliée. Elle va pouvoir se raccrocher pour, se lève-toi et marche. Mais dans l'autre sens, c'est ce que j'avais montré dans mon dernier livre, il peut être aussi un corset, quelque chose qui vous ampute.
Le bâtard de Anne Crédville.
Voilà, le bâtard. Moi, dans mon livre, j'avais étudié Gabriel de Georges Sand, où c'est extrêmement... très intelligemment fait d'ailleurs dans cet ouvrage, où on voit combien, c'est vrai, nous n'avons jamais mutilé sexuellement les femmes, nous n'avons jamais brandé les pieds, etc. En revanche, on les a rendues incapables juridiquement.
Oui.
Et ça paraît stupide, mais l'incapacité juridique est aussi mutilante que la mutilation physique, la souffrance, le confinement, l'enfermement sont des réalités également.
La femme mineure fait partie du droit civil, dans l'histoire du droit civil.
Voilà. Donc le droit, c'est ce double aspect.
Il y a une porte d'entrée, une porte de sortie.
Voilà.
Et très souvent, il faut que la littérature nous aide d'ailleurs à ouvrir des poches d'émancipation.
Et je pense que c'est l'intérêt. C'est-à-dire que pour le juriste, la littérature peut être tout à coup, c'est ce que j'écrivais dans ma communication, un moyen pour nous de décoïncider avec notre certitude que telle réalité correspond à tel mot.
Parce que
cette adéquation, c'est le mot et la chose, cette adéquation entre le mot et la chose, c'est une adéquation temporaire, temporelle, située, mais qui n'a pas forcément de lien de nécessité.
Alors, il faut qu'on avance.
Oui.
Il y a cette part d'ombre du droit qu'on vient d'évoquer. C'est l'objet de la troisième partie de l'ouvrage, des formes à l'œuvre. Et cette part d'ombre, on la voit de manière éclatante dans l'évocation de la figure de Liu Xiaobo par Colette Kamelin, témoin des massacres de Tiananmen en 89, poète et résistant de la Chine de Mao et de celle de Xi Jinping, qui meurt en détention en 2017, qui sera prix Nobel en 2010, mais qui va produire une écriture de la résistance exceptionnelle par rapport à la violence dont il subit. Là, le droit est un capteur d'identité, un destructeur en fait de la liberté. Donc cette face d'ombre est au cœur de la partie concernant ces formes-là. Ces formes-là sont des formes qui détruisent, mais dont la littérature essaye effectivement de nous libérer quelque part, ce que fait la poésie de Liu Xiaobo.
Tout à fait. Alors, le mot forme renvoyait aussi bien aux formes juridiques qu'aux formes littéraires aussi. C'est-à-dire que dans mon introduction, j'ai évoqué le fait que je prends le mot littérature au sens juridique du terme. C'est-à-dire pas de l'histoire littéraire, parce que la définition juridique est beaucoup plus large. C'est une définition 18e-iste, donc nous sommes avant les romantiques. Il n'y a pas de réduction de la littérature, par exemple, romanesque. La littérature est
Tel que le droit l'a construit,
le droit à la propriété littéraire, qui est mon droit que j'aime beaucoup, dit voilà, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre littéraire ? C'est une création de forme originale qui utilise le mot comme matière première. Mmh. Après ça, ça peut être écrit, ça peut être oral, ça peut être un travail d'éloquence, ça peut être de la poésie, ça peut être de la fiction, mais ça peut être un cours, ça peut être beaucoup de choses. Mmh. Voilà, donc ça, je trouvais que c'était important parce que tout au long. Tous les genres littéraires ne sont pas présents dans ce colloque, mais il y en a quand même beaucoup pour justement ne pas réduire la littérature à ce que traditionnellement on entend par littérature. Mmh. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait même des évocations de droits constitutionnels, de trucs constitutionnels. Et là, en l'occurrence, il s'agit de poésie. Et c'est vrai que la poésie, alors là, c'est de la poésie chinoise, mais la poésie a souvent été un moyen de résistance, alors qu'on peut dire inutile dans la mesure où c'est pas ça qui va abattre une dictature, c'est un acte de résistance et qui fait trace, en fait. Voilà.
Alors, il y a aussi dans cette partie une évocation du droit anglo-saxon, l'enquête du coroner, par Nicolas Barrett, ce qu'il appelle une scénographie de l'ennui. Oui. Il y a une figure de Michelet à travers la poésie du droit. Alors, Michelet, un grand poète de l'histoire, qui ressuscite les morts et réenchante l'histoire. Donc, on voit bien comment là, la poésie, qui semble assez centrale dans cette partie, le récit poétique aussi, donne une dimension tout à fait. Et alors, il y a aussi l'évocation de l'auteur aussi, par Nicolas Maté.
Et là, à l'occasion de ce travail sur Michelet, j'ai découvert, alors que là je ne le savais pas non plus, puisque j'ai travaillé effectivement sur Vico et que le traducteur en langue française, c'est Michelet, de Vico. Ouais. Et donc j'ai compris, en écoutant l'intervention, finalement le sens, c'est parce que Michelet lui-même s'est nourri du travail de Vico, représentation.
Faut rappeler aux auditeurs qui était Vico.
Alors Vico était un philosophe de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle et qui a voulu travailler sur l'origine de la poésie et du droit. Et donc c'est
le cœur du sujet.
Absolument le cœur du sujet. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut lire. Et en plus c'est une écriture tout à fait attachante. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il crée une généalogie, c'est-à-dire qu'il y a bien un lien, une parenté entre la poésie et le droit, sauf qu'il met la poésie en amont. La poésie est première. Et d'ailleurs, là-dessus, il va travailler sur tous les grands textes fondateurs, alors à la fois la mythologie, mais les textes religieux aussi, et notamment la Bible. Il écrit de très jolies choses sur Moïse, et il montre comment ces poètes sont en même temps des législateurs, parce que ce sont des créateurs à la fois de monde et de peuple. Et il va travailler sur le développement des mots. C'est-à-dire, il va montrer comment, en latin, le mot qui désigne le juriste, en fait, est un mot qui désigne celui qui chante. Enfin, tout est... C'est extrêmement, extrêmement riche.
Chanter,
donc,
parler,
voilà. Donc, la poésie, avec sa force génésique...
La culture de l'oralité.
En plus. Mais avec la force génésique de l'oralité, eh bien cette force, le droit en hérite en quelque sorte, et il continue à porter cette force-là, ce qui confirme le caractère performatif. Et Michelet a traduit Vico en France.
Ce qui explique beaucoup
de la pensée de Michelet. Ce qui explique énormément. Voilà, c'est quand lui-même, après, prend en charge, décide de fonder le droit sur un certain nombre de mythes et autres, il y a une résonance. Voilà, donc Vico est un personnage vraiment passionnant.
Alors justement, on va terminer sur la quatrième partie. Donc, vous parlez effectivement beaucoup de Vico, mais il y a aussi ce texte de François Host qui conclut l'ouvrage. Et Christine Baron là, évoque aussi le fait divers entre droit et littérature. Vous intitulez, alors qu'on revienne à cet exemple, « Créance de sens ». Oui. Expliquez-nous ce titre.
Alors, c'est une très belle expression d'Alain Supiot.
On dit « dette de sens » en d'habitude. Là, c'est « créance de sens »,
voilà.
C'est différent.
Alain Supiot... finalement interroge la validité, la légitimité d'un certain nombre
de droits au sens.
Oui, de choses, voilà. Il essaie de démonter certaines choses qui nous paraissent tout à fait évidentes, par exemple sur le contrat de travail, puisqu'au départ, c'est quand même son domaine de recherche premier. Et il évoque cette créance de sens que, finalement, le public, la population, contracte à l'égard de ceux qui font sa loi, en quelque sorte. Et donc j'ai repris cette expression parce que, d'une part, c'est une mise en interrogation de ce que le droit et la littérature peuvent donner comme réponse à un certain nombre d'interrogations, mais c'est aussi pour se demander que faisons-nous quand nous, entre guillemets, prenons du temps pour travailler droit et littérature. Donc c'est double niveau. Qu'est-ce que droit et littérature peut apporter, mais qu'est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce qui nous motive dans ce type de démarche. Voilà.
Alors Christine Baron, merci de nous rejoindre pour cette fin d'émission.
Merci de m'avoir invité.
Et donc vous évoquez effectivement le fait divers entre droit et littérature. Comment vous revisitez le fait divers de votre côté?
Alors pour moi, c'est une porte d'entrée idéale sur la question des rapports entre droit et littérature, dans la mesure où c'est un récit complet, le fait divers. C'est-à-dire que contrairement au roman policier qui s'arrête au seuil de l'instruction, au fond, le fait divers prend en compte à la fois les faits, leur traitement judiciaire et généralement plutôt dans le domaine du droit pénal.
Et c'est toujours cette causalité inexplicable dont parle Barthes ou vous allez au-delà ?
Alors, effectivement, on se pose la question de ce que Ricoeur appelle l'ascription dans le fait divers. C'est-à-dire la raison pour laquelle tel individu, qui paraît tout à fait convenable, agréable, bon citoyen, bon voisin, etc., a commis cet acte horrible. C'est la question qui taraude, évidemment, toute personne confrontée à un fait divers. Et puis, d'autre part, le fait divers est intéressant parce qu'il est aussi, me semble-t-il, le sismographe d'une société. Il y a énormément de faits qui pourraient entrer dans la catégorie des faits divers et qu'on ne voit jamais dans les journaux. Je pense notamment au suicide des agriculteurs, qui est quand même un phénomène de société massif depuis de nombreuses décennies, à cause de l'endettement. Cela, personne n'en parle. Donc le fait divers, c'est d'abord ce dont on a décidé que cela figurerait dans l'actualité.
Vous gardez le concept de fait divers, vous ne parlez pas de fait de société, vous ne sociologisez pas forcément ce concept-là, vous le gardez comme un objet d'étude.
Alors, en fait, c'est un...
C'est souvent discuté.
Oui, c'est un récit autonome. Néanmoins, et on le sait très bien dans l'histoire des faits divers, il y a des faits divers qui résonnent de telle façon dans la société qu'on ne peut pas, on ne peut plus ne pas entendre certains signes qu'il nous adresse. Je pense notamment très récemment au procès de Gisèle Pellicot, qui est un procès emblématique parce que bon, il y a eu le coup de tonnerre MeToo en 2017. Là, on a vraiment, à travers les témoignages, à travers la succession des récits à la barre, et puis le sentiment de la part des coupables de ne pas avoir fait quelque chose de répréhensible. On a véritablement là un signal social qui me paraît particulièrement fort.
De la même façon, le procès France Télécom, normalement, ce n'est jamais dans la rubrique faits divers, le conflit du travail, etc.
Bon, c'est... Mais le mot de sismographe d'une société en conflit, en crise, et bon, l'audience, moi j'aime ça, l'audience ou le fait divers est un très bon témoin de cette conflictualité sociale qui nous permet de l'apercevoir.
Et dans le cas de France Télécom, c'était l'avènement, en quelque sorte, des problèmes, de management, pour dire les choses, dénoncés, mais à bas bruit depuis très longtemps, ou dans des cercles, on va dire, restreints, mais qui n'étaient jamais advenus comme un vrai problème de société. Et là, la mise en cause est apparue de manière très, très claire. Ça, c'est aussi très important. Ça n'a pas changé grand-chose après. Mais voilà, la chose a eu le droit à une sorte d'anoblissement, en quelque sorte.
Alors, Sandra, il faut conclure maintenant.
Oui, oui, oui.
Quelle conclusion vous tirez de ce travail à Cerisy la fin des grands récits, l'apparition de récits émancipateurs. Est-ce que c'est ça que nous annonce cette relation entre droit et littérature? Alors, ou c'est autre chose?
D'abord, c'est encore ouvert. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je tiens à préciser que droit et littérature n'est pas du tout un champ qui permet ni le relativisme, ni la déconstruction. J'insistais là-dessus parce que ce sont deux termes très à la mode, si j'ose dire. On déconstruit tout. Alors effectivement... on peut déconstruire, ça c'est tout à fait évident. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Quand l'approche peut être très critique, cette approche n'est pas dévastatrice. Elle est une invitation à... Alors moi, ce qui me paraît tout à fait important, et c'est la dimension politique, je pense, hein, de ce travail, c'est de relégitimer le débat public. C'est-à-dire qu'il y a énormément de débats publics qui sont confisqués ou qui ne sont même pas, qui n'ont même pas d'espace. D'accord. Et droit et littérature, en tout cas pour moi, c'est véritablement le moyen, que ce soit à travers l'histoire.
Le questionnement permanent.
Parce que l'histoire a une dimension très importante, hein, dans cette démarche, dans la mesure où contextualiser est nécessaire, systématiquement nécessaire. Mais cette contextualisation, n'aboutit pas au relativisme, c'est-à-dire finalement tout change tout le temps, il n'y a pas, il y a rien de vrai, il y a etc. Ce n'est pas vrai. On voit très très bien qu'il y a une quête permanente du juste qui n'est jamais atteint, mais qui est animée par un sentiment ou un savoir, mais non défini, que ce n'est pas encore ça. Et donc on arrive, comme un funambule, à ajuster parfois, à équilibrer, tout en sachant qu'il va falloir un certain nombre de rehauts. Voilà, et je crois que ça, c'est important. Pour moi, la dimension de droit et littérature, en tout cas, c'est comme ça que je le prends, c'est une dimension politique.
Oui.
Véritablement, redonner au débat politique, au débat démocratique, des éléments pour pouvoir à la fois identifier là où il y a problème, parce que parfois, on ne les voit pas. Là où, et ça, le dialogue entre ces deux disciplines permet de faire surgir des thèmes, des problèmes, et de ne pas apporter de solutions. Ça, je crois que c'est tout à fait important par rapport à certaines disciplines qui peuvent nous offrir des systèmes tout fermés, qui vont tout régler. Droit et littérature n'offre pas de réponse ni de système fermé. C'est au contraire donner à chaque lecteur une autonomie, une majorité, pour pouvoir penser ce qu'on lui met entre les mains et voilà, après,
c'est une belle conclusion, je trouve.
Pour moi, c'est important, cette dimension
vous
politique.
Vous intégrez le rapport droit et littérature dans le champ global de la démocratie,
oui,
de son ouverture, de la permanence d'un débat,
oui,
qui vous semble effectivement essentiel, et qui permet aussi au droit d'être pensé dans l'ouverture permanente.
Absolument, absolument.
Et non pas dans la fermeture normative qui parfois fige les choses.
Et il s'agit toujours d'une expérience de pensée. Et le vivre est une expérience de pensée.
Ouais.
Donc à ce niveau-là, je crois que droit et littérature se réconcilier avec la vie, voilà, et se réconcilier avec la pensée.
Ouais. Merci beaucoup, Sandra Traffert de Vautrier, pour cet ouvrage dont je rappelle le titre, Droit et littérature. C'est le numéro 9 de 2025 de la revue dirigée par Nicolas Dissot. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radio.amicus.curier, à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée et réalisée par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.